Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre quand les choses arrivent.
Yasmine Motard-Djemi a trois nationalités, iranienne, suédoise et suisse. Son nom signifie celle qui traduit, l'interprète. Ça tombe bien car elle parle au moins cinq langues. Elle est née en Iran, dans une famille de médecins exerçant dans le secteur public. Puis elle émigre en Suède où elle obtient un doctorat en génie alimentaire à la fameuse université de Lund. Ensuite, elle part travailler en Suisse auprès de la non moins prestigieuse Organisation mondiale de la santé. Là, pendant son mandat, la voici courtisée pendant 2 ans par une multinationale, Nestlé, qui souhaite la recruter, probablement pour utiliser son réseau international et son excellente réputation au sein de l'OMS, se dit-elle aujourd'hui. Elle est séduite par le poste et accepte d'entrer chez Nestlé en 1999. Elle devient directrice de la sécurité alimentaire au niveau mondial. Excellente oratrice, elle donne des conférences dans le monde entier et des cours dans de prestigieuses universités européennes. Elle est couverte d'éloges. Ses évaluations annuelles au sein de l'entreprise Nestlé sont toujours supérieures aux attentes ou même bien au-delà des attentes. Lors du procès qu'il opposera à Nestlé, les psychologues qui expertisent ses compétences la décrivent ainsi en 2017. Madame Motard-Djemi est une femme très engagée et droite. Elle donne le meilleur d'elle-même à chaque sollicitation, quelle qu'elle soit, avec un souci évident de satisfaire l'autre. Madame Motard-Djemi a un sens de responsabilité et un sens du devoir hors du commun. Est-ce en raison de cette droiture, de ce sens moral hors du commun, que Madame Motard-Djemi va alors suivre un chemin de croix, celui d'une lanceuse d'alerte, dit-on aujourd'hui, celle par qui le scandale arrive, qui dit la vérité, que peu veulent entendre. On précisera, avant d'écouter cet entretien, que le groupe Nestlé a décliné toutes les demandes d'interview qui lui ont été faites sur le dossier de Yasmine Motard-Djemi, au motif que l'affaire était en instruction. Le groupe se limitait à cette déclaration « La sécurité et la qualité de nos produits sont notre priorité absolue. Aussi, les affirmations de Yasmine Motard-Djemi sont complètement infondées. » En 2010, Yasmine Motard-Djemi a finalement été licenciée de Nestlé pour avoir refusé une mutation à un poste dont elle estimait qu'il était un placard, fort bien rémunéré, mais qui constituait, selon elle, une mise à l'écart. Voici donc son histoire au micro d'Inès Leroux, nouvel épisode des citoyens qui changent le monde.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Quand j'avais 7 ans, j'habitais à Shiraz, au sud de l'Iran. Et mes parents avaient un très beau jardin. Et quand ils se sont divorcés, nous avons déménagé à Téhéran. Et j'ai perdu ce jardin et depuis, j'ai rêvé d'avoir un jardin. Jusqu'à ce que j'ai décidé d'acheter cet appartement au rez-de-chaussée juste pour le jardin. J'ai attendu 40 ans. Pour avoir un jardin. Mais finalement, il est devenu aussi le résultat de souffrances chez Nestlé, parce que chaque fois que je souffrais de ce qui se passait au travail, j'allais dans les pépineries, j'achetais des plantes, je me défoulais comme ça, et c'était ma thérapie. Et j'ai voulu créer un jardin aussi beau que je peux pour faire un petit peu le contrepoids de la laideur que je vivais au travail. Et voilà, donc c'est pour ça que je l'ai appelé le jardin des rêves et des souffrances. Je m'appelle Yasmine Motard-Djemi. J'ai travaillé à l'Organisation mondiale de la santé, et puis c'est pour ça que je suis venue en Suisse. Et mon rôle à l'OMS, c'était de développer le programme pour la prévention des toxi-infections alimentaires, tout ce qui a à voir avec la microbiologie alimentaire. Et donc, c'est à l'OMS que j'ai commencé à travailler avec Nestlé d'ailleurs. Le directeur de Nestlé m'a rencontré la première fois dans une conférence en Thaïlande. Et c'est à cette conférence-là qu'il a décidé de me recruter. Et donc, on m'a proposé le poste de la directrice de la sécurité alimentaire au niveau mondial. C'était un poste qui m'intriguait énormément, parce que je trouvais au sein de la plus grande industrie agroalimentaire du monde, Nestlé, il est actif dans, je ne sais pas, une centaine de pays, et puis il a toutes sortes de produits, allant de l'eau au glace, chocolat, produits infantiles, produits pour les animaux de compagnie, surgelés, produits cuisinés, café, une très grande variété de produits. En décembre 1999, j'ai accepté. Devenir directrice de la sécurité alimentaire, c'est un grand défi. Donc pendant plusieurs mois, je voyage à travers le monde et j'examine les opérations de Nestlé. Qu'est-ce qui se passe dans le centre de développement de produits, dans les usines, pour voir comment dans chaque pays on gère la sécurité alimentaire. La chose que je remarque tout de suite, c'était la culture de l'entreprise. Je fus choquée dès le début qu'il y a une culture de peur. Je me rappelle très bien la première séance qu'on m'a présentée à mes collègues. C'était le silence complet. Personne n'a posé de questions, personne n'osait quoi dire. Cette culture de peur s'est confirmée dans le sens que tout le monde considérait que le PDG de l'époque était comme l'empereur de Chine. Quand il y avait des conférences internes chez Nestlé, tout le monde tremblait devant lui, tout le monde avait peur de poser des questions. Et donc, des fois, on nous encourageait de poser des questions parce que c'était très très mal vu qu'il y avait ce silence, évidemment. Mais il fallait envoyer la question d'abord à quelqu'un dans l'administration pour qu'il voie si cette question est acceptable ou non. Puis je voyais aussi que mes directeurs, dès qu'il se passait quelque chose, ils étaient toujours très très nerveux. Il y a eu d'autres faits plus tard qui montraient que les gens avaient extrêmement peur de rapporter la vérité à la direction. Et ils mentaient, ils cachaient les informations. Par exemple, je pense souvent à ce collègue qui avait écrit quelque chose dans le domaine de sécurité alimentaire qui était faux. Puis je lui dis, mais ce que tu as écrit est faux. Et puis il me répond, ah, je m'en fous tant que je gagne mon salaire. Ou l'autre collègue qui était allé aux États-Unis, il avait visité une usine, il revient. Et je lui dis, quelle était ton impression? Il a dit, ah oui, mais c'était très mauvais. J'aurais jamais donné cette nourriture à mes enfants. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fermé l'usine? Est-ce que tu rapportes au directeur? Il me répond, non, en fait, si on doit fermer cette usine, on doit fermer 20 autres en Europe. Le directeur le sait, ils le savent tous. Voilà. En 2002, nous recevons deux plaintes de consommateurs. Leur bébé s'est étouffé avec le biscuit de Nestlé. Leur plainte était très sérieuse et ils avaient dit qu'ils avaient mis leurs doigts dans la gorge du bébé pour sortir le biscuit, où le bébé est devenu bleu. On a dû retourner le bébé pour faire sortir le biscuit. C'était assez grave pour que les parents prennent le téléphone pour téléphoner à Nestlé et se plaindre et dire que ce produit est dangereux. À l'époque, j'ai voulu arrêter le produit tout de suite. Puis après, notre expert spécifique pour ce genre d'incident m'a dit que de tels incidents peuvent arriver et que ce n'est pas un problème avec le produit. Alors, heureusement, j'ai eu le réflexe de dire, si c'est le cas, je voudrais bien voir tous les plaintes des consommateurs avec ce produit pour l'année 2002, pour m'assurer que ce n'est pas un problème avec le produit. C'était juste avant les vacances de Noël, et après les vacances, quand je reviens, je vois sur mon bureau les plaintes de consommateurs pour l'année 2002 et janvier 2003, et il y avait 44 cas Donc, le centre de recherche de Nestlé savait depuis des années que le biscuit présentait des dangers pour les consommateurs. Et donc, tous ces grands directeurs de Nestlé, ils sont venus donner des discours, des paroles. Et puis, la réalité est tout autre chose. Voilà, ils disent que la sécurité alimentaire non négociable, mais après, c'est tout à fait acceptable que les bébés s'étouffent avec leurs produits. Tout va bien tant que les bébés ne sont pas morts. Suite à ma lettre à la direction de Nestlé, on est revenu, on m'a dit que le problème est résolu. On a changé la farine et que maintenant il n'y a plus de problème, il n'y a plus de plainte de consommateurs. C'est ce qu'on m'a dit. En 2009, il y a des bébés qui sont morts à cause de ce produit Erta, des saucisses, knacky, je crois que ça s'appelle. Le même problème, étouffement, et que Nestlé a été même condamné par le tribunal, parce que Erta appartient à Nestlé. Et Nestlé n'a jamais essayé de tirer les leçons de son histoire avec biscuits pour bébé, pour agir en amont pour que cette histoire ne se répète pas avec d'autres produits. Alors, j'ai connu le directeur de sécurité alimentaire de Nestlé en France. Il était responsable de la sécurité alimentaire chez Nestlé France. Donc cette affaire de biscuits pour bébés se passait sous sa direction. Pendant des années, il observait toutes ces plaintes et il n'a rien fait. Alors qu'il n'avait qu'à augmenter l'âge de la consommation des biscuits. Ou arrêter les produits. Ça, ce sont des mesures efficaces. Il n'a rien fait de tout ça. Et donc, je n'ai pas agi contre lui. J'ai essayé juste de gérer le produit. Sauf qu'il a été indirectement exposé. Parce qu'il était responsable chez Nestlé France. Et malgré toutes ces affaires-là, et il y en a eu d'autres, il a été, fin 2005, promu comme directeur de qualité au niveau mondial, donc il devient mon hiérarchique supérieur.
Mais alors quel intérêt a Nestlé à promouvoir quelqu'un qui fait des erreurs importantes ?
Alors, pour eux, ce n'est pas des erreurs. Ce sont des risques qu'il prend. Il a essayé d'agir dans l'intérêt du business. Il est vu comme un trader, voilà. À ce moment-là, Nestlé fait la politique de lier les bonus des managers au retrait des produits. Les managers sont encouragés par des bonus à ne pas retirer des produits du marché, même s'ils sont contaminés, si la contamination peut traverser les contrôles. Voyez ? Ça incite les managers à prendre des risques. Et donc, ce directeur de qualité chez Nestlé France devient mon chef. Alors, étant donné qu'on a eu quelques confrontations et différences d'opinion sur la gestion de la sécurité alimentaire, et étant donné que j'étais une menace pour son bonus, parce qu'il savait très bien que s'il y a un produit contaminé, je me battrais pour le retrait des produits, il commence un processus de harcèlement et de représailles envers ma personne. Il commence à me dénigrer, il démantèle mon équipe, il fait barrage à tous mes projets. J'étais la directrice de sécurité alimentaire, mais je n'avais plus la parole dans les réunions. Des choses comme ça. Et petit à petit, les gens commencent à comprendre que je suis harcelée et qu'ils ne doivent pas me parler. Le fait qu'il a fait barrage à mes instructions, qu'il m'a discrédité parmi le personnel, font que plus tard, Nestlé a été impliqué dans une des plus grandes intoxications alimentaires du monde. En 2007, Nestlé est pris dans une grande intoxication avec mélamine aux États-Unis. Mélamine, c'est une substance chimique utilisée en Chine pour falsifier le taux de protéines dans les matières premières. Aux États-Unis, la plupart des producteurs des produits pour animaux de compagnie, ils avaient importé du gluten de blé de la Chine, falsifié avec mélamine. Et donc, les produits Nestlé aussi sont appliqués. Il y a des centaines de chats et de chiens qui sont morts. Ça, c'était en 2007. Suite à cet incident, ce directeur, il tient le silence sur cette affaire. Et quand moi, je lui questionne, mais qu'est-ce qu'on fait pour prévenir un autre incident avec mélamine, il me dit, tu dis rien parce qu'on doit payer les propriétaires de chats et de chiens aux États-Unis, alors tu dis rien. Voilà. Et puis, dans une vidéo officielle qui a été utilisée pour la formation de nos personnels, il dit, vous n'avez pas besoin de considérer les contaminants chimiques dans la matière première parce que les contaminants chimiques vont être gérés par les fournisseurs. Alors que la plupart de nos incidents venaient à cause des matières premières qui étaient contaminées. Donc il y avait toute une série de facteurs combinés qui a fait que Nestlé a fait absolument rien pour contrôler ses produits en Chine pour un éventuel risque de mélamine. Une année après, en 2008, on découvre qu'il y a 300 000 bébés qui sont intoxiqués avec mélamine, avec les formules infantiles en Chine. Et il y a eu au moins 13 bébés qui sont morts. Alors, évidemment, il y a une enquête et il s'avère que le produit principal qui est la cause de l'intoxication, c'est le produit d'une entreprise qui s'appelle Sanlou. Les produits Nestlé aussi étaient contaminés. Mais Nestlé rapporte un taux de contamination très bas. Donc, Nestlé est à ce moment-là disculpé comme cause de l'intoxication alimentaire, même s'il doit retirer ses produits du marché. La première chose que je veux dire, c'est que si Nestlé avait vérifié ses produits comme toute entreprise responsable devrait faire, il aurait pu découvrir la contamination de mélamine et il aurait pu donner l'alerte. Nestlé avait l'opportunité de prévenir la plus grande intoxication de l'histoire de la sécurité alimentaire. Et ce que je veux dire, que quand on parle de la responsabilité sociale des entreprises, quelle responsabilité plus grande pour une grosse entreprise comme Nestlé de contribuer à la surveillance et la sécurité de la chaîne alimentaire? Après la crise de mélamine, le PDG est venu à notre département pour savoir pourquoi notre département n'était pas préparé pour la crise de mélamine et pourquoi on n'avait rien fait pour la prévenir, pour que nos produits ne soient pas impliqués. En fait, on cache cette réunion de moi et je la prends à travers un collègue. Et on m'avait pas invité. On me dit, ah, on t'avait oublié. Je suis la directrice de la sécurité alimentaire chez Nestlé, toujours, et on m'a oublié de m'inviter pour la plus grande crise de la sécurité alimentaire. Alors, j'essaye de faire un rapport pour le PDG, et pour la rapport, je me dis, ce serait bien de mettre un organigramme de la direction pour qu'ils sachent qui est qui. Et en cherchant un organigramme sur le site, je tombe sur un organigramme de notre département. Et sur cet organigramme, il n'y a pas mon nom.
Vous avez disparu.
Je n'étais pas, oui. Alors, je demande à la direction, pourquoi il n'y a pas mon nom sur l'organigramme? Et on ne me répond pas. Mais j'ai dit, mais vous n'êtes pas sérieux. On ne me répond pas. Donc, j'ai consulté mon assurance de protection juridique, qui était AXA. Et j'ai présenté les faits. Et AXA a tout de suite reconnu que c'est le pire des harcèlements dans le contexte de l'alerte sanitaire. Et ils m'ont donné une garantie qu'ils vont me soutenir en cas de procès. Et l'avocat a écrit une lettre au PDG pour demander audience. C'est suite à cette lettre qu'on m'a licenciée sans répondre à l'avocat. Donc, je fus licenciée en 2010 pour le motif que j'ai une différence d'opinion avec mon chef sur la gestion de la sécurité alimentaire. Tout ce que j'avais vu, toute cette approche à la sécurité alimentaire, toute cette expérience, pour moi, c'était tellement inacceptable.
Et ça, même une fois licencié, vous ne pouviez pas le révéler?
Je n'avais pas le droit. D'après le code des obligations de la Suisse, c'est interdit de révéler les informations que vous avez au sein de l'entreprise. Et le seul moyen pour moi de révéler, c'était de faire un procès et présenter mes informations au tribunal. Et donc, je fais un procès contre Nestlé. Là, ça fait la 8e année. Et si j'ai de la chance, peut-être après 10 ans, j'aurai une réponse. Nestlé a fait plusieurs interventions qui ont retardé le procès. Par exemple, ils ont demandé au report du procès, après ils ont demandé la suspension du procès, après ils ont porté plainte contre la décision de la juge, donc un tribunal de recours a dû lieu avant. Donc voilà, donc. Autre chose, c'est que l'AXA, qui est mon protection juridique, qui avait donné la garantie à l'avocat de me soutenir même pour un tribunal, a changé de position et il m'a laissé tomber. Pour moi, c'était comme on me laisse tomber du 10e étage. Et donc, en 2011, j'ai dû faire un procès contre AXA et Nestlé en même temps. Et imaginez-vous de faire un procès avec vos propres économies alors que vous n'avez même pas un travail, pas d'avenir professionnel et que vous savez que vous n'aurez plus trop d'emploi, contre deux multinationales qui se sont réunies ensemble. Parce que d'ailleurs, Nestlé a recruté le PDG d'AXA dans son conseil d'administration.
Après qu'AXA vous a lâché.
Voilà, oui. Et puis quand j'ai gagné en octobre 2012 contre AXA, ce jugement est devenu jurisprudence. On parle souvent du combat des lanceurs d'alerte et tout ça, mais vous savez, un de ces combats, c'est d'essayer de garder sa santé mentale. C'est un grand combat. J'ai l'impression que je dois tout le temps mettre mon âme dans une camisole pour que elle se comporte comme il faut. Que je ne devienne pas hystérique. Et on est tout le temps en train de contrôler ses sentiments et ça bouffe l'énergie. Je n'ai plus d'intérêt pour cette société avec ses valeurs. J'ai l'impression que je n'ai plus rien à faire dans cette société. Absolument plus rien à de sens. quand je pense à un autre emploi, je me dis, mais dans un autre emploi, qu'est-ce que je dois faire? La prochaine fois que je verrai quelque chose de similaire, qu'est-ce que je dois faire? Me taire? Que les gens tombent malades? Ou est-ce que je dois protester? Je suis plus sûre comment on doit se comporter. Donc le problème pour moi aujourd'hui, c'est comment croire en une société qui s'en fout. Moi, j'ai perdu toute ma vie, toute ma carrière, tout 35 ans de travail, d'expérience, mon avenir, ma famille qui a souffert autant, pour rien. Si on voulait examiner et puis dire, voilà, on peut améliorer notre système sur certains points, au moins ça donnerait un sens à ce que je souffre. Et puis, ce que j'aimerais que les consommateurs sachent, c'est que cette façon dont on a traité mon affaire fait que personne d'autre va parler. Et que c'est eux qui seront les victimes des prochains incidents. Voilà, donc mon âme a tellement souffert dans cette histoire que c'est difficile de parler maintenant. Les émotions, les pensées, tout ça se mélange et puis bloque ma gorge. Ça serre aux gorges quand je veux parler. J'ai du mal.
C'était Yasmine Motar-Djemi, seule contre Nestlé, un reportage d'Inès Leroux diffusé pour la première fois le 12 mai 2017. Sachez que depuis cette nouvelle diffusion, Yasmine Motar-Djemi a gagné son procès contre Nestlé en janvier 2020 après un procès de 10 ans. La cour d'appel civile du tribunal cantonal vaudois a reconnu que la direction de Nestlé avait violé la loi suisse du travail et harcelé psychologiquement Madame Motar-Djemi. Nestlé a fait appel de ce jugement et a perdu. Le 16 avril 2019, Madame Motar-Djemi a reçu au Parlement européen le prix des lanceurs d'alerte avec Julian Assange et Rui Pinto. Cette émission a été réalisée par Emmanuel Geoffroy avec un coup de main de David Jacubo-Viez. Merci au docteur Marc Caram, à Mélissa Foust et à Victor Candelaft.